Médien. Médien.
Podcast.
Médien.
Podcast. Médien. 11h30, 12h, nouvelle piste.
On en parle partout, certains y voient la plus grande révolution depuis Internet. D'autres annoncent la disparition de millions d'emplois. L'intelligence artificielle fascine autant qu'elle inquiète. Mais une fois le bruit médiatique écarté, une question s'impose. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment l'intégrer dans son travail sans la subir? Quelles opportunités offre-t-elle réellement? Quelles compétences faudra-t-il développer demain? Et surtout, comment les entreprises peuvent-elles transformer cette révolution technologique en avantage plutôt qu'en menace?
Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
Bienvenue dans Nouvelle Piste, le rendez-vous qui explore les grandes mutations du monde professionnel. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mohsin Lahdissi, entrepreneur, professeur et expert en intelligence artificielle. Avec lui, nous allons dépasser les fantasmes pour comprendre comment l'IA est déjà en train de transformer notre façon de travailler et comment nous pouvons, chacun à notre niveau, nous y préparer. Monsieur Lahdissi, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup, Yasmine. Le plaisir est pour moi.
Alors, pour commencer justement, on entend tout et son contraire sur l'intelligence artificielle. Certains parlent de la plus grande révolution de notre époque, d'autres d'une menace pour l'emploi. Avec un peu de recul, est-ce que cette peur est justifiée?
Alors, en fait, c'est un processus tout à fait naturel quand on rencontre une innovation, et notamment une innovation disruptive. C'est le cas de l'intelligence artificielle. Et ça a été le cas dans plusieurs innovations auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu le feu, il y a eu le fer, par la suite il y a eu les machines, il y a eu le pétrole. Et à chaque fois, là, il y avait de l'appréhension. En même temps, il y avait des espoirs qui sont portés sur ces révolutions ou ces évolutions technologiques. L'intelligence artificielle ne sort pas du lot. Et effectivement, elle apporte énormément d'opportunités pour les entreprises, pour les individus, pour beaucoup de métiers. Mais elle apporte également son lot de risques, de menaces. Des fois, ça va aller même vers des menaces existentielles, puisque finalement, l'intelligence artificielle reste au final un outil qui est à la main des humains, qui peuvent être mal intentionnés comme peuvent être bien intentionnés. Mmh. En fait, ce qui fait la peur également, c'est la transformation profonde qu'elle pourrait opérer. Aujourd'hui, c'est une transformation dans l'économie, dans le marché de l'emploi, dans les relations humaines, dans la psychologie de l'humain, dans la manière d'organiser les sociétés. Et ça veut dire tout simplement que ce qui est arrivé après la révolution industrielle, aujourd'hui tous les paradigmes dans lesquels nous vivons sont nés de la révolution industrielle, sont en train de changer de manière profonde. Et tout changement, par nature,
fait peur.
Il fait peur. Et il crée de la résistance.
Alors, mais si on devait rester toujours macro avant de rentrer encore plus au sein des entreprises, qu'est-ce qui distingue l'IA des précédentes révolutions technologiques?
Alors, il y a plusieurs éléments distinctifs. Le premier élément, c'est la rapidité avec laquelle cette technologie évolue. Avant, on a eu affaire aux réseaux sociaux, on a eu affaire à Internet, la téléphonie mobile, la micro-informatique, mais à chaque fois, c'était des décennies, au moins des années, pour pouvoir opérer la transformation. Avec l'IA, c'est quelques mois, quelques semaines. Donc la dimension déjà en termes de temps, elle change. Deuxième élément, les impacts. Sur certaines technologies, on était resté sur des technologies qui étaient à la main de quelques-uns, privilégiés. Bien sûr, il y a eu une démocratisation, mais qui a pris du temps. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est quelque chose qui peut impacter tout un chacun. Alors, justement, c'est pour ça que moi, je ne considère pas l'IA uniquement comme technologie. C'est une manière de s'organiser, c'est une manière de travailler, c'est un outil de travail. Et donc, du coup, ça impacte tout le monde. C'est ça ce qui fait également cette transformation qui est majeure. Un troisième élément, à mon avis, qui peut faire peur, c'est qu'aujourd'hui, il y a en fait une concentration des développeurs, des équipes, et des entreprises qui maîtrisent l'IA et qui développent l'IA. Cette concentration se fait principalement aux États-Unis et un peu en Chine, et ça fait peur à tout le reste du monde, parce qu'on considère qu'avec une révolution aussi profonde et aussi impactante, le fait qu'on ne soit pas dedans en termes de développement, ou au moins en termes de maîtrise et d'impact, ça fait que, bien sûr, ça crée énormément d'appréhension.
Donc on est de simples consommateurs aujourd'hui de l'IA, au niveau de l'Afrique?
Exactement. Alors, on est de simples consommateurs. Pire encore, on est quelque part contrôlé par l'IA, parce que l'IA, c'est un outil, soit on le contrôle, soit on est contrôlé avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le savoir, on est un peu contrôlé par l'IA. Le fil d'actualité des réseaux sociaux, il est dicté par l'IA. Les recommandations d'achat dans les espaces, les plateformes e-commerce, c'est de l'IA. Dans les jeux vidéo, c'est de l'IA. Donc, il y a plein de choses. Le scrolling avec les vidéos qui sont affichées à un utilisateur, c'est également de l'IA. Donc, l'IA, elle est un peu partout. Elle est déjà en train de nous contrôler depuis déjà plusieurs années. Et ça veut dire que si on ne la maîtrise pas, on risque de la subir.
Alors, ce qui veut dire, et corrigez-moi si je me trompe, professeur Al-Khdissi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du Maroc, on doit faire un travail parallèle. C'est-à-dire, les entreprises existantes, comment monter en compétences pour adopter l'IA de façon efficace, donc, et les changements de méthodologie de travail, de processus de travail, en intégrant l'IA, mais en parallèle, c'est tout le système de recherche et développement, d'éducation universitaire, scolaire, si on descend encore plus dans les bases, qui doit en fait, dès cette rentrée 2026-2027, être déjà dans l'approche formation IA pour que finalement, au bout d'un moment, on puisse nous aussi être vraiment, pas simplement consommateurs, mais aussi producteurs d'IA. En fait, les deux choses doivent se faire en parallèle.
Tout à fait. C'est deux temporalités différentes. Il faut agir sur le court terme et sur le court terme, il y a un travail important d'adoption. Parce que si on n'adopte pas, il y a un dicton qui dit « AI or die ». En fait, soit on adopte, soit on est relégué en dernière place, que ce soit pour un individu, pour une entreprise, pour une organisation, voire pour une nation. Donc, le fait d'adopter immédiatement, et quand je dis adopter, c'est-à-dire se former, c'est-à-dire monter en compétences sur les technologies déjà existantes, c'est-à-dire également comprendre, maîtriser ces technologies pour pouvoir les utiliser au quotidien, développer avec des cas d'usage qui permettent d'apporter de la valeur, essayer de chercher un retour sur investissement de cette technologie. Donc ça, c'est un travail à faire dans l'immédiat. Et ça n'attend pas, parce qu'on a... Alors, il y a Arthur Mensch, qui est le patron de Mistral, qui a été auditionné au niveau de l'Assemblée nationale en France, et qui a parlé d'une fenêtre de 2 ans. C'est pas le seul qui parle de ça. Ça veut dire, en fait, il y a une fenêtre de 2 ans pour transformer nos façons de faire au sein des entreprises et des organisations.
Et les 2 ans ont commencé quand, professeur ? Les deux ans ont commencé ?
C'est début 2026. Parce qu'en fait, il y a eu un changement majeur fin 2025 et 2026. C'est vrai qu'il y a eu l'IA générative en 2023, 2022-2023. Mais après, il y a eu une évolution assez rapide qui a conduit à ce qu'on appelle l'IA agentique, c'est-à-dire en fait des agents autonomes qui peuvent agir pour vous, qui peuvent prendre en charge pas mal de vos tâches et qui vont transformer le marché du travail. Et ça, c'est effectivement une transformation qui est une fenêtre de tir, parce qu'après, toutes les entreprises qui ne vont pas être adopter vont voir leur productivité vraiment se réduire à un minimum face à d'autres qui ont pu adopter. Donc ça, de un. De deux, il y a la deuxième temporalité qui est la temporalité moyen et long terme. Et là, il faut agir vraiment au niveau le plus bas. C'est comme ce qu'on a fait, par exemple, par rapport au foot, avec l'Académie Mofinsis. Je crois qu'il faut agir au niveau de l'éducation, même primaire, secondaire, bien sûr universitaire, c'est fondamental, pour former les talents de demain, pas uniquement sur l'intelligence artificielle. Là, je fais une nuance, parce que beaucoup de gens croient que pour pouvoir aborder l'intelligence artificielle, il faut se former sur l'intelligence artificielle. Non, il faut se former également sur la philosophie, sur l'histoire, sur la géographie, sur de la religion, sur des choses qui vont permettre justement de maîtriser les impacts et de conduire cette transformation. Parce que l'IA, s'il n'est pas fait de manière responsable et avec de l'éthique, ça risque de conduire à des catastrophes. Et donc, c'est tout ce circuit de formation, de recherche également et développement, donc recherche dans les universités et transfert technologique vers les entreprises, qui doit s'actionner pour pouvoir permettre au bout de 5-10 ans de rattraper un peu, au moins d'être, si ce n'est pas des producteurs de l'IA, mais faire du Maroc un contributeur important et incontournable pour l'IA.
5-10 ans, c'est quand même long, hein, quand même. On a dépassé la Coupe du Monde 2030, qui est déjà dans nos têtes une bonne
c'est
étape.
C'est une autre Coupe du Monde.
C'est une autre Coupe du Monde, absolument.
Tout à fait.
Alors, la discussion avec vous, pour comprendre justement, prendre de la hauteur et comprendre l'IA est formidable, mais je suis obligée de rentrer dans le vif du sujet qui est en fait l'entreprise marocaine aujourd'hui. Ouais. Vous êtes consultant en IT, vous êtes un AI crafter. Dans les entreprises que vous accompagnez, où en est l'adoption de l'IA aujourd'hui? Et en même temps, si je peux me permettre, lorsqu'on parle de l'IA, on parle d'un terme générique. Alors qu'à l'intérieur, il y a plusieurs outils par secteur. Et donc, est-ce que ça aussi, le fait qu'on utilise un terme générique, ça perturbe un petit peu la perception et la diversité de tous ces outils qui pourraient être utilisés au sein de l'entreprise? Et on les limite peut-être à ChatGPT, Claude, etc.
Oui, oui, exactement. Alors, à un moment donné, on parlait de l'IA prédictive ou l'IA analytique, qui est une IA classique où on cherche à prédire l'avenir, à se projeter, à optimiser. C'est un peu l'IA classique. Il y a eu l'IA générative, effectivement, qui a permis d'avoir ce qu'on appelle des agents conversationnels avec qui on peut dialoguer, qui peuvent répondre à nos questions, qui peuvent générer du contenu.
Des bots.
Là, c'est une étape de plus. Oui, c'est les bots. Mais aujourd'hui, en fait, on parle de plus en plus également de l'IA agentique, où là, c'est une transformation du marché du travail, c'est-à-dire tout simplement qu'on va automatiser certaines tâches. Je vais donner un exemple très simple. Si je suis une banque, il y a beaucoup d'opérations back-office qui demandent énormément d'efforts, qui nécessitent beaucoup de ressources humaines et techniques pour pouvoir les implémenter. Ça, aujourd'hui, on peut automatiser. On peut automatiser. Alors,
ça veut dire quoi, on peut automatiser? Ça veut dire,
par exemple, aujourd'hui, dans une banque, on fait des traitements de main levée, on fait des traitements d'ATD, on fait des traitements de recouvrement, et tout ça se fait manuellement. Dans la plupart des cas, c'est des dossiers papier qui parviennent, qui vont dans un centre de traitement. Il y a une équipe back-office qui va aller regarder, checker, contrôler, ressaisir toutes les informations là où ils doivent le saisir sur une plateforme bancaire, un core banking. Et donc, tout ce travail-là, aujourd'hui, c'est du manuel. Si je parle de la relation client, les centres de relation clientèle, donc les centres d'appel, dans beaucoup de cas, c'est de l'intervention humaine pour pouvoir expliquer, répondre à des questions, gérer des réclamations et gérer des incidents. Alors, tout cela peut être, alors je ne vais pas dire automatisé de bout en bout. Là également, il est très très important de garder le contrôle humain. Des fois, on va parler de ce qu'on appelle « human in the loop », c'est-à-dire en fait, dans la boucle de traitement, il faut qu'il y ait une validation et un contrôle humain. Et des fois, on va même parler de « human on the loop », c'est-à-dire l'humain doit contrôler la boucle de bout en bout. Moi, je tends même à dire « human is the loop ». Des fois, c'est l'humain qui doit être à la boucle, et la technologie, elle est là en complément. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, si j'avais besoin, par exemple, dans une grande banque, de 5 personnes pour traiter les mains levées et de 10 personnes pour traiter les chèques, ben demain, j'aurai besoin peut-être d'une personne, deux personnes, juste pour faire le contrôle et la vérification.
Ok, alors pardon, une nuance par rapport à ça. Quand vous dites demain, concrètement, c'est dans combien de temps?
Demain, ça a déjà commencé au Maroc. Certains banques ont déjà mis en place cela.
Et ça veut dire que ces personnes en moins dont on a besoin, on en fait quoi? On en a fait quoi?
Alors, justement, c'est là où je crois, c'est là l'approche à aborder. Il faut absolument qu'on ait des programmes de reskilling et de cross-skilling qui permettent à plusieurs personnes de se redéployer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps à répondre à des questions répétitives. Par contre, analyser les types de questions pour produire des solutions à priori et de solutions d'anticipation, ça c'est de l'intelligence, ça c'est de l'analyse et ça c'est de la créativité humaine. Donc pour moi, le travail consiste surtout à transformer ces organisations, à transformer ces personnes pour qu'ils adoptent un mindset et des compétences nécessaires pour les travaux et les tâches de demain. Donc pour l'entreprise, c'est pas nécessairement de la réduction d'emplois, c'est pas nécessairement du gain de productivité simple, mais c'est beaucoup plus pouvoir faire plus avec moins. Faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et ça, il y a une étude de BCG à Harvard qui est sortie avec un constat très simple. En utilisant un outil d'IA, un seul outil, on peut réaliser 12% plus de tâches. En fait, 12% de tâches qu'on ne réalisait pas auparavant, gagner 25% de productivité et améliorer de 40% la qualité. Et ça veut dire qu'on peut transformer carrément les tâches et les fonctions.
Mais aujourd'hui, justement, quand vous dites demain, c'est déjà aujourd'hui dans certaines banques au Maroc, est-ce qu'on a réussi le pari de transformer les compétences du capital humain dont on n'a plus besoin pour ces tâches en particulier?
Alors, c'est des choses qui sont en cours. Il faut juste dire qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage qui tournent, qui sont en production au niveau de certaines banques, de certains groupes d'assurance, de certains groupes télécoms. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, on n'est pas sur un déploiement, on n'est pas encore sur un déploiement très large pour l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la partie humaine, ça trébuche encore. Je dirais que le sujet IA doit être traité comme un sujet RH, pas un sujet technologique.
Okay.
Et s'il est traité comme un sujet RH, là, on va penser pas uniquement au reskilling, cross-skilling, donc à de la formation complémentaire, mais on va penser également à la redéfinition des postes. On va penser peut-être à la réinvention de l'organisation. On va penser à la redéfinition du business model et du modèle opérationnel. Et c'est vraiment là où on va atteindre la vraie valeur ajoutée et les vrais retours sur investissement de l'IA.
Donc ça, en fait, c'est une recommandation très importante. C'est aborder l'IA sous le prisme des RH et non pas seulement de l'IT. Aujourd'hui, dans les entreprises marocaines, est-ce que l'IA est encore, on va dire, cantonnée au département IT, au service IT?
Alors, moi, je vais vous dire, j'ai été vraiment agréablement surpris sur les deux dernières années, parce que bon, j'ai fait des formations pendant très longtemps. Sur les deux dernières années, la plupart des formations, en fait, quand on commence le processus de formation avec une entreprise, souvent c'est avec le COMEX, avec le comité exécutif, c'est avec des fois le conseil d'administration. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un bon indicateur. C'est en fait une prise de conscience que le sujet, c'est un sujet stratégique, c'est un sujet RH et pas uniquement un sujet IT. Maintenant, dans la pratique, souvent, on va se retrouver avec des projets IT. Et ça, alors, c'est bien, mais par contre, en fait, je crois qu'il y a un travail d'appropriation par les équipes métiers, par les équipes transverses du sujet IT. Aussi bien sur le volet productivité, parce que ça les concerne au quotidien, mais également sur le volet éthique et usage responsable. Parce que l'IA, on peut aller dans, on peut divulguer de l'information personnelle qui est régie par la loi 0908, on peut divulguer de l'information confidentielle de l'entreprise, on peut encourir des risques de sécurité. Et donc, en fait, si on n'adopte pas correctement, si on n'adopte pas de manière consciente et consciencieuse, ben on risque d'avoir également les aléas et les risques et les menaces qui sont associés à l'IA. C'est pour ça que vraiment, c'est un sujet global. Il faut traiter à une échelle un peu plus élevée et pour lequel il faut consacrer l'effort, le temps et le budget nécessaire pour pouvoir réussir cette transformation. Dans le mot transformation IA, pour moi, le mot-clé, c'est transformation. C'est 90% de transformation et 10% de technologie.
De technologie. Alors, on va finir. On a été assez concret, mais encore de façon encore plus concrète. Imaginons que je sois aujourd'hui un auditeur qui nous écoute dans sa voiture en allant au travail. Je ne suis ni ingénieur ni développeur. J'ai juste envie de rester dans la course. Par quoi je commence?
Alors, déjà, cette prise de conscience, elle est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de l'IA, ça nous concerne à l'échelle individuelle, au-delà de ce que peut faire l'entreprise et au-delà de ce que peuvent faire les équipes techniques, technologiques et les équipes IT. Moi, je crois qu'il faut investir et s'investir dans le sujet. C'est-à-dire pour moi, avec le rythme où ça change, il faut consacrer vraiment au quotidien, peut-être 10, 15 minutes, 30 minutes, à regarder ce qui se passe, à tester des outils et à identifier des cas d'usage personnel. Et c'est quelque chose qui peut paraître surdimensionné, dire 30 minutes pour travailler sur l'IA. Je peux vous assurer qu'avec les 30 minutes, on peut gagner des heures, voire des jours de travail. Dernièrement, je suis à l'université, on travaille sur un institut de l'intelligence artificielle, c'est l'université Hassan Premier Tipas, et on était sur la définition des filières. C'est un processus qui est lourd.
Sur la définition de filières.
Parce que les filières doivent être accréditées par l'ANIAC au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est un processus qui est lourd. Ça prend des fois, voire des jours, je peux même dire des semaines, pour pouvoir préparer le dossier de filière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière automatique au niveau de la plateforme, en utilisant de l'IA agentique. C'est-à-dire qu'on peut passer de quelques semaines à quelques minutes. Et ça, c'est un gain de temps extraordinaire qui peut être redéployé sur les activités de recherche et développement, sur les activités de rayonnement, et sur les activités de développement.
On revient à notre consultant, justement. Donc, je commence par une prise de conscience et une envie d'apprendre. Ensuite, je consacre un minimum de 10 à 30 minutes au quotidien pour apprendre de nouvelles compétences et découvrir davantage l'IA. Mais que faut-il apprendre concrètement? Parce que, vous l'avez dit, les outils changent tellement vite et chaque secteur a une IA spécifique ou des IA spécifiques, des outils IA spécifiques. Mais finalement, est-ce qu'il y a une trame générale? Qu'est-ce qu'on peut tous apprendre? Ou bien est-ce qu'il faut se spécialiser?
Non, en fait, je crois que deux choses. C'est là où, effectivement, quand on fait appel à un professionnel de la formation, ça peut être intéressant parce que ça permet de guider le choix et le travail et l'effort. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que généralement, on a besoin tous de 2 à 3 outils. Premier outil qui est un agent conversationnel, tous ceux qu'on a déjà vus, alors ceux qui sont connus, en version gratuite, en version payante, si vraiment on atteint un niveau d'usage intéressant. On a besoin d'un outil agentique. Donc là, il y a des outils qui existent, qui permettent justement d'automatiser des tâches.
Outil agentique, c'est l'outil qui permet d'automatiser, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est des outils qui permettent d'automatiser des tâches de bout en bout. C'est en fait, qui peuvent se connecter à votre messagerie, qui peuvent se connecter à votre calendrier, qui peuvent se connecter à un CRM ou à un site web pour pouvoir faire les choses automatiquement.
Et ça, moi, je suis capable de le développer toute seule, par exemple?
Oui, oui, tout à fait.
Okay.
Et ça, je peux vous assurer parce que on a pu faire des formations à quelques milliers de personnes. Je peux vous assurer qu'au bout d'un certain moment, en fait, tout un chacun, on a eu même des gens qui ont 70 ans, 75 ans, même 80 ans une fois, et qui arrivent à manipuler ce genre d'outils. Donc, c'est des outils qui sont simples, c'est du no-code, et aujourd'hui, c'est plus ou moins accessible, mais ça permet de gagner énormément de temps. Parce que, par exemple, je vais mettre un exemple très simple, de la veille quotidienne. Moi, je veux que chaque jour, début de matinée, je reçois une veille qui concerne mon domaine d'activité. Ça, c'est quelque chose que je peux automatiser de bout en bout. Je peux, par exemple, décider d'avoir tout simplement un briefing de mon calendrier et des messages auxquels je dois répondre chaque jour en début de matinée. Donc ça, c'est des choses qui nécessitent vraiment un minimum de connaissances techniques. C'est juste un peu de formation, voire de l'auto-formation, et qui permettent de faire ça. Troisième outil, c'est un outil spécialisé. Si je suis financier, probablement j'aurai besoin d'un outil qui est beaucoup plus centré sur la finance. Si je suis un marketeur ou un créatif, j'ai besoin d'outils pour la partie créativité, pour créer des vidéos, des contenus, ainsi de suite. Donc généralement, avec 2 à 3 outils, on peut automatiser 20 à 30% des tâches quotidiennes, c'est-à-dire qu'on peut gagner 2 heures par jour, ce qui est l'équivalent d'une journée par semaine à peu près, ce qui est l'équivalent de 4 jours par mois, c'est presque une semaine additionnelle de travail chaque mois.
Eh bien ça c'est incroyable justement quand on parle de gain de temps. Merci beaucoup professeur Mohsin Lakhdissi, j'aurais tellement voulu aussi savoir comment vous vous êtes adapté en tant que professionnel à l'arrivée de l'IA, comment vous êtes monté en compétences, comment vous êtes devenu un formateur également, un consultant international, mais on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres épisodes de Nouvelles Pistes et découvrir ensemble toutes les nouvelles pistes qui font les mutations de notre monde professionnel. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier numéro.
Merci à vous.